Pop, pop, yen, et tous les autres aussi, bonjour. C'est vendredi, c'est podcasty. Oui, le vendredi, pop, cède sa place à pop, podcast, comme le fait un individu à peu près normal en voyant un senior à la peine dans une rame de métro. Le dit métro conservant néanmoins son pilote et son copilote, comme nous le faisons, Charline et moi-même, en passant de pop, à pop, podcast. Et là, métaphore du vendredi, eh bien, je dois avouer que je m'en sors pour une fois plutôt bien, vu qu'il va être question de Yamanote aujourd'hui, le podcast de Marie Palot, qui fouille la culture manga au sens large, animé compris, d'origine japonaise, comme chacun sait, le métro Tokyoite étant le plus parfait du monde, d'une propreté telle qu'elle donne le vertige, voire la notion de l'infini aux occidentaux que nous sommes. C'est donc l'animé et le manga, et non l'hygiène des transports en commun, qui sont à l'honneur aujourd'hui, même si, comme vous allez le voir, le manga transporte énormément de monde et depuis longtemps, au point que la France est le deuxième consommateur au monde après le Japon. Marie Palot, animatrice du podcast Yamanote, est donc notre invitée. Et pop podcast, c'est parti.
France Inter. Pop. Antoine de Gaulle.
Bonjour Marie Palot.
Bonjour.
Bienvenue dans Pop Podcast.
Merci.
Marie, vous venez nous parler de votre podcast Yamanote, comme je viens de le dire, à écouter sur toutes les plateformes Radio France et France Inter, et consacré au monde des animés, c'est-à-dire des dessins animés japonais, ainsi qu'à la culture manga au sens large. Alors nous allons en parler longuement avec Charline Roux, qui va nous rejoindre dans un instant, mais tout d'abord, notons que vous êtes vous-même une spécialiste de la culture pop.
On essaye. C'est quelque chose qui s'apprend et qui change de forme très régulièrement, donc j'essaie de me tenir au courant. Mais c'est vrai que c'est devenu mon quart de métier depuis 2013 maintenant.
Bien, si vous êtes familière de la culture pop, vous savez donc qu'il y a un rite de passage en ouverture de Pop Podcast qui consiste à dire correctement le nom de cette émission. Je vous écoute.
Pop Podcast.
Bien. Cette formalité remplie, ne vous entend-on pas en effet dans le magazine pour la jeunesse Zinzin, aussi sur France 4, dire des choses telles que
« En sillonnant tel Ulysse, les mers tourmentées de la culture pop, nous découvrirons comment l'inventivité, l'humour et le goût pour l'épique de la mythologie grecque continuent d'inspirer les plus grandes œuvres de notre temps. »
Ça, c'est vous, Marie, dans Zinzin, hein, sur France 4. Je vous recite donc « En sillonnant tel Ulysse, les mers tourmentées de la culture pop ». Non, mais dites-moi, vous n'y allez pas de la main morte, vous naviguez dans les eaux de pop, là. C'est ce qu'on peut appeler de la piraterie, ou je rêve?
Oh, disons que c'est un autre format, et puis c'est pour les plus petits. C'était vraiment une porte d'entrée, Zinzin, une vocation très particulière d'intéresser, on va dire, les plus jeunes à la pop culture.
Bah, pour les plus petits, vous connaissez la moyenne d'âge des auditeurs de pop?
Je dirais que c'est une fourchette large. 5 à 105 ans, c'est
allez,
très large.
11 ans, aux dernières nouvelles. Peut-être pouvez-vous m'aider à répondre à cette question que nous nous posons depuis presque 5 ans maintenant, puisque vous êtes vous-même une spécialiste du genre. C'est quoi pour vous la pop culture, Marie?
La pop culture, je dirais que c'est une valise un peu fourre-tout dans laquelle on met des vêtements d'été, des vêtements d'hiver, et on ne sait pas trop où on va, mais on va passer des bonnes vacances. C'est un peu comme ça que je le définis.
Ok, une espèce de trousse à outils.
Exactement.
Multi-usage.
Du cinéma, de la musique, des nouvelles tendances, du lifestyle. On y met un peu ce qu'on veut, à vrai dire.
Bref, le monde dans lequel on vit, si je comprends bien.
C'est bien ça.
Exactement. Alors plus sérieusement, vous avez beaucoup à nous apprendre hein, sur un pan entier de la pop culture contemporaine, celle qui, depuis les années 60 au moins, nous arrive du Japon sous la forme de cet art particulier qu'est le dessin animé japonais ou encore l'animé. On se lance juste après avoir écouté, si vous le voulez bien, un morceau qui s'intitule, et rien de personnel, « Si tu m'aimes demain », c'est « Il y en a ».
Voir tas de photos dans les chambres d'hôtel. Toi, tu me peindras sur le dos. Si tu m'aimes demain, dans les soirées chics, les cheveux en pagaille, on se fera la malle, on donnera des disques. Si tu m'aimes demain, je t'achèterai une plage, le temps d'un été, loin des journaux qui crieront scandale. Si tu m'aimes demain, bisous, incognito, on sera peut-être des cons. Se voir la vie à deux, dommage, j'y avais pas mieux. Devoir se dire adieu, on tournait par eux, se retrouver comme de vieux. Faut que si
vous écoutiez Il y en a, si tu m'aimes demain, dans Pop Pop Podcast. Oh, bonjour Charline.
Oh, bonjour Antoine.
Bonjour, je vous présente Marie Palot qui vient nous parler de Yamanote, comme vous venez vous-même de Picardie. Charline, voulez-vous bien me rappeler ce qu'est Yamanote? Je n'arrive pas à me relire, j'ai mal noté.
Je n'ai pas compris d'ailleurs pourquoi la Picardie, mais il doit y avoir un lien. Très bien. Un voyage sur une ligne ferroviaire circulaire la plus célèbre de Tokyo et qui dessert les quartiers les plus célèbres de la capitale. Chaque arrêt, Marie descend, évoque un thème, une idée développée avec des experts, culture urbaine, pionniers, valeurs, féminisme ou sexisme, industrie, une vision à 360 degrés de la culture manga. Et puisque c'est l'objet du premier épisode du podcast, initiation et recommandation, si on est totalement novice, par quelle œuvre est-ce que vous nous conseillez de commencer?
Il y a beaucoup, beaucoup d'œuvres. Si c'était de mon prisme personnel, je dirais quelque chose qui fédère beaucoup de gens, un titre qui parle de sport. Pourquoi pas du basket, puisqu'on parle beaucoup de foot, on parle beaucoup de, voilà, de sport co, mais c'est vrai que le basket est devenu très populaire au Japon suite à un titre qui s'appelle Slam Dunk et qui vieillit très bien avec l'âge, qui est magnifique, qui est une superbe histoire, qui bénéficie d'un graphisme incroyable. Donc c'est le premier titre que je recommanderais.
C'est noté.
Une entrée par le sport, donc.
Exactement.
Plus que par l'aventure spatiale, les fantaisies.
Disons que c'est une aventure, mais une aventure personnelle, ouais, d'un lycéen qui se cherche, qui se découvre un talent, qui se fixe des objectifs. Donc c'est quelque chose qui est très ancré dans notre réalité à tout un chacun. Donc je dirais que ça peut être un message qui parle à tout le monde, le shonen sportif.
Bien, Marie, évidemment, pour moi, tout cela est évidemment très clair. Mais pour les nuls, comme notre rédacteur en chef... Notre cher Mika, est-ce que vous voulez bien nous clarifier un peu le vocabulaire? Quelle est la différence, par exemple, entre animé, japanimé, manga, eiga? Tout ça, c'est la même chose ou pas? Il y a
alors,
des nuances.
Disons qu'il y a plein de nuances. Quand on dit japanime, ça englobe toute l'animation japonaise. Les animés désignent les dessins animés japonais. Quand on parle, par exemple, de shonen, c'est un terme qui désigne, en fait, tous les mangas qui sont pré-publiés dans un magazine à destination des jeunes garçons. Ça veut plus trop dire grand-chose aujourd'hui, puisqu'on trouve du coup des titres très romantiques dans des magazines de prépublication shonen, alors qu'avant on avait plutôt le mauvais réflexe de l'apparenter au shoujo, qui du coup s'adresse aux jeunes filles. Vous avez les seinen, qui sont des titres un peu plus adultes, dans lesquels on va trouver plus des polars, des thrillers, des thèmes plus matures, parfois assez glauques. Vous avez aussi les kodomo, qui s'adressent aux beaucoup plus jeunes. Donc voilà, vous avez plein de typologies de séries, de mangas, d'animés, qui s'adressent à un public, mais aujourd'hui, on se retrouve que les cloisons ne sont pas étanches du tout.
Attendez, je vérifie juste voir si Mika a bien pris des notes pendant votre brillant exposé. C'est bon, il a tout compris. On peut continuer.
Quelles sont, Marie, les spécificités de l'animé japonais par rapport, par exemple, au dessin animé américain, au dessin animé français? Est-ce qu'ils se sont d'ailleurs mutuellement influencés?
On a la plupart des... Alors, j'ai mes animés de mon enfance, en vérité, je trouve pas qu'il y a de vraies différences. Je regardais, par exemple, Ulysse 31, je regardais Cobra. Il y avait des inspirations qui étaient très occidentales, ne serait-ce que dans le chara-design, c'est-à-dire le visage des personnages. Aujourd'hui, quand on parle d'animés japonais, c'est vrai qu'on pense forcément à une patte graphique très identifiée, des grands yeux, des cheveux colorés, etc. Mais mais on a tendance à trouver des séries qui sortent un petit peu de ces sentiers battus. On a aussi un avènement de séries américaines qui reprennent un peu ces codes. Je pensais notamment à Invincible, qui est donc une série d'animation sur Prime Video, qui est inspirée d'un comics et qui reprend quand même la plupart des codes de l'animé. Donc je dirais que la signature vraiment de l'animation japonaise commence vraiment à déteindre sur toute l'animation de manière générale.
Alors Marie, il faut dire que, bien que vous soyez née en Corée, vous avez grandi en France, c'est ce qui fait que vous avez découvert la culture manga et animé à la télé française, avec notamment...
Pour la première fois, grâce au Club Dorothée, vous allez pouvoir un super dessin animé que personnellement j'adore, et toc, je l'ai dit,
oui, encore, c'est quoi
Dragon Ball.
Le Club Dorothée, qui diffusait les premières séries d'animation japonaise à la télé française, ce sont donc vos premiers émois manga, c'est de là que ça vient ?
Ça vient en fait de mon frère, qui est plus âgé, donc qui est né au début des années 80 et qui donc m'a fait vivre cette aventure, parce que moi j'étais encore trop jeune, et qui enregistrait, il avait le bon réflexe d'enregistrer tous les programmes qui passaient à l'époque et qui échappaient un petit peu au scope du CSA. Et du coup j'ai pu bénéficier de par mon grand frère, de cette culture qui nous arrivait, qui est encore hyper exotique. Donc c'est quelque chose que j'ai découvert assez tôt grâce à lui, mais que j'ai développé assez tardivement en découvrant après la culture japonaise en y allant.
Qu'est-ce qui vous a plu là-dedans tout de suite ?
C'était hyper différent de la manière dont l'histoire était racontée. J'avais les dessins animés que je regardais à côté quand j'étais plus jeune, qui nous racontaient l'histoire d'une petite fille qui avait des problèmes, comme les malheurs de Sophie, etc. Mais la façon dont un combat se déroulait sur 10 épisodes dans Dragon Ball Z, par exemple, c'était quelque chose qui pouvait me scotcher à l'écran et me fasciner pendant des heures. Et on a de la chance, les parents ne regardaient pas trop ce à quoi on s'intéressait.
Bah alors justement, parce que le Club Dorothée, on y pense dans l'épisode Féminisme et Sexisme. C'est d'ailleurs très intéressant parce que l'ensemble de vos expertes se souviennent aussi avoir lu des mangas adaptés ensuite et diffusés au contenu assez limite en ce qui concerne les représentations féminines sans l'avoir vraiment réalisé à l'époque. Par exemple, Dragon Ball Z, l'occasion pour vous d'une petite introspection.
Pour rappel, la télé publique espagnole de la région de Valence a censuré l'animé sous prétexte que certains contenus encourageaient les discriminations par le biais de stéréotypes et d'assignations sexistes. Bulma, qui est l'un des personnages féminins principaux, elle est souvent épiée, montrée nue, pour le comique de situation ou le fanservice. La série devrait-elle bénéficier du label « Oh ça va, c'était une autre époque hein, » ou est-ce qu'on s'interroge, on se dit « Ok, les petites filles lisaient aussi Dragon Ball ». Personnellement, moi je lisais, je regardais. Alors j'interroge la petite fille en moi de l'époque. Honnêtement, je me souviens plus de si ça me gênait. Je m'identifiais tellement à Goku que je me souviens pas finalement si le traitement du personnage de Bulma soulevait des questions en moi, si le fait qu'elle était hyper sexualisée alors que c'était une ado dans l'histoire me gênait.
Alors, qu'en pense votre vous, adulte ?
Mon moi, adulte, a forcément un regard qui s'interroge encore et toujours sur la représentation de la femme, notamment dans la Japanimation. Mais c'est vrai que je réalise aussi, en regardant en arrière, que je m'identifiais plus aux personnages masculins, qui étaient bien souvent les héros, qui étaient secondés par des personnages féminins, là, pour avoir, on va dire, les Robert qui ballottent quand elles courent, quoi, pour dire grossièrement.
Les Robert qui ballottent.
Les Robert qui ballottent,
pour montrer des culottes.
Voilà, ouais.
Pour Bulma, c'était quand même l'argument principal.
Exactement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on a une vraie progression des personnages féminins. On assiste vraiment à des constructions de caractère, de profil psychologique de personnages qui deviennent hyper profonds, hyper intéressants. Mais à l'époque, c'est pas une question qu'on se posait. Donc on regardait, il y avait des combats, il y avait 2-3 culottes de temps en temps, c'était drôle, et puis on s'intéressait surtout au personnage principal. Heureusement, on a une vraie tendance qui s'inscrit aujourd'hui et qui va vers le progrès, ça fait du bien.
Et alors pour en finir avec le Club Dorothée, c'était des programmes à l'époque brocardés, notamment par des ministres françaises, pour leur caractère violent à une heure de grande écoute, faisant abstraction du reste des valeurs de solidarité, de dépassement de soi véhiculées par certains animés. Des animés qui ont de fait longtemps pâti d'une mauvaise réputation. Est-ce que le Club Dorothée a été à la fois un cadeau et un poison pour la culture manga ?
Je pense qu'ils ont été un cadeau dans tous les cas. Ça a bercé l'enfance et l'adolescence de plein de gens. Je continue de penser que toute découverte de production artistique, c'est toujours une bonne chose. Mais on ne peut pas nier qu'il y avait des interrogations réelles à l'époque. Mais encore une fois, il fallait pas faire fi de toutes les bonnes choses aussi que nous apportait ce nouveau média. C'est quelque chose que je rappelle très régulièrement à des parents qui viennent me voir en me disant voilà, j'aimerais bien acheter Naruto à mon fils de 14 ans, mais est-ce que c'est pas trop violent? J'essaie aussi de leur montrer que dans ces médias, il y a plein de belles valeurs et de beaux messages qui sont délivrés. C'est ça qu'il faut retenir.
Marie Palot, alors même pour les moins initiés, hein, le dessin animé japonais, c'est d'abord et avant toute chose ça.
Nausicaa, qu'est-ce que tu fais ici? Ce sont des plantes toxiques de la foucaille.
Je les ai fait pousser sur des spores que j'ai recueillis moi-même.
Hayao Miyazaki, c'est-à-dire à la fois le Chaplin et le Fellini du long métrage d'animation japonais, c'est toujours la référence pour les nouvelles générations.
Alors, comme il part à la retraite, soi-disant tous les ans, forcément, il y a des relèves qui commencent un petit peu à s'installer. On assiste à des noms comme Makoto Shinkai, Mamoru Hosoda, qui ont des réalisations absolument fabuleuses, qu'on met souvent comme héritiers du studio Ghibli, mais qui, eux, essaient de s'en défaire, parce qu'ils ont une patte, ils ont une signature. Et aujourd'hui, je dirais que Hayao Miyazaki, ça reste quand même l'une des grandes références de l'animation japonaise, mais c'est pas le seul. Il délivre des messages absolument fabuleux. Il traite très très bien, notamment le passage à l'âge adulte par des protagonistes souvent adolescents, souvent perdus. Il met aussi beaucoup les personnages féminins en avant. Ça, c'est quelque chose qu'il a toujours construit. Mais aujourd'hui, on assiste à l'ascension d'autres réalisateurs japonais qui ont un talent fabuleux et je vous invite à les découvrir, qui en sont les dignes héritiers, en tout cas en termes d'inspiration.
Loyauté, amitié, fidélité, effort, courage, on y revient, telles sont les valeurs véhiculées par bon nombre de mangas. Quelles sont pour vous les vertus cardinales des animés et le héros ou l'héroïne qui synthétise le mieux ces valeurs?
Les valeurs qui reviennent le plus souvent, c'est effectivement la loyauté, l'amitié, la persévérance. Alors, je vais pas être très originale, mais moi, un des personnages qui m'a le plus touchée, c'est Luffy, le protagoniste principal de One Piece. Qui depuis un peu plus de 1000 épisodes d'animation transporte des générations entières de passionnés. C'est une série fleuve qui arrive encore à se réinventer, qui arrive à challenger un héros qui est très 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 fort. On sait qu'il ressortira toujours vainqueur d'un combat, donc on se dirait finalement quel est l'enjeu, puisque même s'il tombe sur des antagonistes extrêmement puissants, bah au final il s'en sort toujours grâce au pouvoir de l'amitié. Mais malgré tout, c'est quelqu'un qui a connu une enfance assez difficile, qui connaît aussi une solitude difficile. Il se construit sa famille, il se construit des amitiés durables. Il croit très fortement en ses rêves et c'est quelque chose qui a vraiment poussé beaucoup, beaucoup, beaucoup de jeunes lecteurs et d'adultes aussi accomplis, eh bien, à s'intéresser aux valeurs qu'il véhicule. C'est quelqu'un de très innocent, c'est un enfant, mais qui est confronté à des problématiques adultes. Donc, je dirais vraiment Luffy pour sa persévérance.
Marie Palot, nous allons continuer à parler de Yamanote, votre podcast disponible sur toutes les plateformes qui parle de la culture animée et manga, mais le moment est venu d'entendre un jingle dont toute l'équipe de Pop Pop est extrêmement fière, c'est celui du Popcast.
Le Popcast!
Le Popcast!
Il est beau, hein, ce jingle.
Il est très beau, non? Il est très juste.
Bah oui, c'est pour annoncer la chronique Popcast de Charline Roux, la chronique qui parle de podcast.
Voici une galerie de redoutables personnages qui se distinguent tous par leur grande maîtrise des technologies, mais aussi leurs égos, quelque peu démesurés. Ils sont des criminels 2.0. C'est le titre de ce podcast Initial Studio qui s'intéresse donc au parcours de ces escrocs cachés derrière des écrans comme celui-ci.
Le 1er août 2015, à Tokyo, l'arrestation d'un Français fait grand bruit. Ce petit génie du codage informatique est à la tête d'une plateforme de monnaie virtuelle sur laquelle 500 millions de dollars ont disparu. Il est accusé de les avoir détournés.
Il s'appelle Marc Carpelès, installé au Japon à l'âge de 24 ans, avant d'acheter quelques années plus tard MTGox, je ne sais pas comment on le prononce, plateforme en ligne d'échange de cartes qui utilise le bitcoin comme monnaie de transaction. Et pour dresser son portrait et retracer son parcours, le programme interroge des juges, des victimes et parfois les criminels eux-mêmes. Et dans le cas de Carpelès, sa mère.
Dans la semaine, le samedi matin, c'était le moment pour mon fils. Tous les samedis matins, alors ça qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, même en cas de guerre mondiale, le samedi matin, j'étais avec mon fils. Donc on lisait, je lui créais des programmes sur ordinateur pour jouer. J'avais un Sinclair. L'avantage du Sinclair, c'est qu'on pouvait faire de la programmation.
Ceci expliquant peut-être le parcours du garçon criminel 2.0. Ce sera dispo sur toutes les plateformes chaque jeudi.
Et alors, Charline, vous avez décidé de nous emmener faire un tour dans le sud-ouest.
Ah non, mais père du croc, vous décarcassez pas vraiment, il n'y a aucune nécessité. Oui, un tour dans le sud-ouest, et ce grâce à Podcastine, un podcast d'actu régional, mais pas que. À l'initiative de Jean Berthelot de la Gletet, lui-même journaliste indépendant, chaque jour, le podcast laisse la parole à des journalistes de médias du Grand Sud-Ouest qui viennent raconter leurs articles pour traiter des sujets nationaux et régionaux. Et le podcast se décline aussi en séries, notamment une très chouette sur le surf, et la dernière en date est titrée Paralympique 2024, grandes ambitions, moyens limités, une série signée Mathilde L'Œil, rendez-vous sur le terrain de basket.
Bonjour, je m'appelle Sofiane Meyaoui, je fais du basket depuis presque 20 ans maintenant. J'ai joué aussi à l'étranger pendant pas mal d'années. Par exemple, j'ai joué à Rome en Italie pendant 5 ans. J'ai joué à Galatasaray pendant 2 ans aussi. Et ensuite, cette année, je suis revenu justement en France, à Paris, pour pouvoir préparer les Jeux Paralympiques de Paris 2024.
Et vous jouez où en France du coup ?
Là, je joue au CSMO, dans le 77.
Le club de basket-fauteuil de Galatasaray, où a évolué Sofiane Meyaoui, fait partie des gros clubs européens. Il a notamment remporté 5 fois la Coupe d'Europe en 7 ans, entre 2008 et 2014. En Turquie, le statut des joueurs n'est pas le même qu'en France.
Alors, à l'étranger, on est vraiment reconnu professionnel, on a vraiment un statut professionnel, et du coup, on peut s'entraîner tous les jours, parce que justement, il y a les aides qui permettent justement de faire que ça. Et on a même l'obligation de s'entraîner tous les jours. Alors qu'en France, malheureusement, comme on n'est pas reconnu professionnel, tout le monde travaille un petit peu à côté justement pour pouvoir joindre les deux bouts.
Suite de cette série et actu quotidienne à retrouver sur podcastine.fr.
Enfin, toutes les bases de la politique dispensées en 3 minutes montre en main par un expert.
Et vous pouviez refaire presque le même accent.
Dans la même accent.
Ouais. Bon. Titre du podcast Allons enfants de la pâtisserie. C'est le titre et l'éminence qui nous fait profiter de sa science. C'est donc...
Jean-Michel Apathy.
Voilà, dont le but est de faire comprendre la politique à ceux qui ne s'y sont jamais intéressés, ou qui n'y comprennent rien, ou juste qui aimeraient en savoir plus. Il répond donc à des questions telles que se passe-t-il si un candidat meurt? Quelle est l'histoire de l'extrême droite? Pourquoi voter blanc? Ou encore ici, combien gagne un responsable politique?
Normalement, on ne s'enrichit pas en faisant de la politique en France.
Normalement.
Les salaires sont publics, ils ne sont pas extraordinaires, nous allons voir tout cela dans le détail, mais précisons, bien entendu, que l'argent qui sert à payer les élus est tout le temps issu de nos impôts. Un président de la République perçoit 15 000 euros bruts, c'est-à-dire à peu près 12 000 euros nets.
Ah oui !
C'est une somme importante et il faut savoir en plus que c'est pratiquement de l'argent de poche parce qu'un président de la République qui vit, travaille, habite à l'Élysée est évidemment nourri et logé aux frais de la République. Bonus non négligeable, quand le président de la République a terminé son mandat, il perçoit à vie une pension de 6 000 euros nets et bénéficie en plus de locaux que loue pour lui la République, et aussi de collaborateurs, d'un chauffeur et donc d'une voiture. C'est quand même pas mal.
Allons enfants de l'apatite, un podcast La Toile sur écoute, et c'est dispo sur toutes les applis.
C'est un excellent titre, Allons enfants de l'apatite.
Oui.
Et je salue Jean-Michel au passage. Merci Charline. Marie Palot, on se retrouve avec vous au Japon, le vrai, celui des dessins animés, dans un instant. Mais tout de suite, on écoute Corday avec un morceau Si Carter. C'est une référence au film Coach Carter.
Ladies and gentlemen, boys and girls, I need y'all to just rock with me. Yeah, I used to dream about a Dodge Charger. Suicide though, sitting on 24s. I was trying to find a job and shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Hey, I used to dream about a new Hummer. Back when good music dropped Cruel Summer. Back when niggas wondered if I do numbers. Check the stats, boy, nigga doing huge numbers. Got this dime piece sucking on my cucumber. I ain't doing too bad for a newcomer. This life shit gave me scars with a bruise under. Certain shit'll make you wonder.
But that's a part of the game. We call life, love is hard to attain. My little brother drive a Jeep and I just bought him a chain. A real nigga, what I'm is and what I always remain. But this bitch temptation keep calling my name. I wrote this song in LA, I was driving my Benz. Thinking about this road I'm on to acquire ends. I'm a fucking outlier, I retire these trends. Niggas told me I was stupid just for hiring friends.
I used to dream about a Dodge Charger. Suicide though, sitting on 24s. I was trying to find a job and shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Okay, listen to these proverbs or odd words we call rap music. That took me all across the globe, watch people react to it. Figments of imagination, couldn't fathom elation. Indescribable with words, so I'll go illustrate it. Illustrious rhyming career for which my rhymes are revered. Clear signs of alignment, shows my timing is near. We all here for an assignment, several souls that are migrant. Simply vessels in this climate, solitary confinement. I break free every time that I wake. My faith leads and creates seeds that eventually blossoms of trees, getting rid of all the extra shit I thought I would need. I put your head on the swivel, wear my heart on the sleeve, but just breathe. This simple exercise can even rectify our greatest sins. I know my days will end next to God. I atone for all of my wrongs through our songs, but let him who is without sin go cast the first stone. I used to dream about a Dodge Charger. Suicide though, sitting on 24s. I was trying to find a job and shit, why bother? Being broken, make you try harder. Sitting in the house watching Coach Carter. Plotting on this fucking Cartier. Hey, plus a nigga trying to go farther. I finally arrived and nobody's here. Yeah, 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 yeah.
France Inter. Antoine Decaune. Pop, pop, pop.
Des centaines de pas qui foulent le pavé, des files d'attente verticales et disciplinées qui patientent devant les portiques. Un coup de sifflet, je vous emmène dans la Yamanote Line, la ligne de métro la plus connue de Tokyo, qui effectue une boucle infinie et dessert les quartiers les plus iconiques de la capitale japonaise. Chaque arrêt où nous descendrons évoquera un thème, une idée que nous développerons avec des passionnés de la Japanime. À l'instar de cette loupe ferroviaire, nous ferons un 360 degrés autour de la culture manga animée. Bienvenue dans le podcast Yamanote.
Et ce que vous venez d'entendre, c'est la voix de Marie Palot, notre invitée aujourd'hui dans ce Pop Podcast, qui vient nous parler donc de Yamanote, son podcast consacré aux animés japonais. Alors on a tous l'impression, fausse d'ailleurs, que l'animé est arrivé par surprise dans la culture pop au milieu des années 80 avec le Club Dorothée, mais le premier véritable succès dans ce domaine est beaucoup plus ancien.
Dans le secret d'un laboratoire de Futurapolis, le professeur Battus a créé un nouveau robot. Astro, le petit robot.
Du futur qui nous fait vivre de vraies aventures, toujours là quand il faut, c'est Astro le petit robot.
Petit robot, vous connaissiez Astro Boy, Marie?
Effectivement, ouais. C'est une des grandes références, une des plus belles créations d'Osamu Tezuka, le dieu du manga, hein, comme on l'appelle au Japon et partout dans le monde. Donc effectivement, oui, c'était pas une surprise. Disons que c'est un regain d'intérêt pour quelque chose qui existait déjà dans les années 50-60.
Oui, c'est ça, parce que là, on parle d'un des tout premiers animés, hein, qui date de 1963. Et en le regardant pour préparer cette émission, oui, je sais, je fais un métier difficile, je me suis soudain rendu compte que le physique très particulier des personnages d'animés, à l'origine, n'était pas très éloigné des dessins américains des années 30.
C'est vrai, au final, même quand on regarde le Roi Léo, alors y a un petit, y a un débat hein, là-dessus, le Roi Lion, le Roi Léo, c'est vrai qu'on n'est pas très loin des dessins animés qu'on connaissait, donc il y a un moment où un virage a été pris avec une patte graphique très 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 identifiée, je pense, j'allais dire même Akira, au final on retrouve quand même des grosses similitudes avec les dessins animés occidentaux, donc là je ne saurais pas dire au final.
Non, parce que quand on voit Astro Boy par exemple, ben c'est Betty Boop en costume de super-héros.
Comme vous y allez.
Non. Et justement,
l'accroche-cœur en main.
Justement, Marie, ce physique très normé et singulier des personnages de manga et d'animé, qu'est-ce qu'il signifie?
je saurais pas vraiment me porter garant de, du message, mais comme je l'interprète en tout cas, il y a une vraie volonté quand même d'occidentaliser en tout cas la plupart des personnages. On voit des femmes qui ont tout sauf les cheveux noirs, qui ont tout sauf les yeux bridés, même des hommes, hein, donc c'est vrai qu'on est un peu aux antipodes de ce à quoi on ressemble en Asie. Pourtant, quand vous allez dans les rues, vous voyez beaucoup de gens colorés, vous voyez, alors on sait pas qui a inspiré qui, mais c'est vrai qu'il y a cette impression, en tout cas, quand on regarde des animés, des mangas, de, d'avoir que, finalement, des gens qui ne sont pas asiatiques.
Mais c'était aussi, sans doute, dans l'intention de s'adresser à un marché international, de sortir des limites du marché asiatique, peut-être.
Ce qui est quand même... alors, c'est peut-être une de ces volontés-là, avec la, notamment donc le Japon marche par air, et il y avait une ère qui voulait justement s'ouvrir au reste du monde. Mais il y a aussi, quand même, un de ces paradoxes où le Japon produit pour le Japon et ne s'occupe pas du reste du monde. Donc on ne saurait pas vraiment, en tout cas moi je ne saurais pas vraiment dire pourquoi on fait des designs comme ça qui peuvent plaire au monde entier alors que au final on se concentre vraiment sur le marché national.
Alors, il y a certains designs mais il y a aussi une mode vestimentaire qui a traversé les écrans pour venir chatoyer IRL, comme on dit.
Pardon, attendez, attendez, chatoyer IRL.
Chatoyer, vous l'avez.
Pardonnez-moi mes enfants,
IRL,
chatoyer IRL.
In real life.
Oh, in real life, dans la vraie vie, vous voulez dire. Ok, chatoyer dans la vraie vie, donc.
Pardon, effectivement, excusez-moi. Et c'est quelque chose dont on prend la pleine mesure, notamment dans les conventions. Moi, je suis toujours soufflée quand je me rends dans un Japan Expo ou autre festival où on retrouve des passionnés de Japanimation, notamment. Des gens qui sont plus... japonais que les japonais eux-mêmes dans leur façon de s'habiller, très kawaii donc très mignon. Quand vous vous baladez dans les quartiers qui sont identifiés justement kawaii à Tokyo, on trouve des looks, ouais vraiment des styles, mais ça reste quand même assez rare. Ils sont pas vraiment partout dans les rues, donc c'est vrai que il y a quelque chose qui est venu largement influencé même la mode, même du côté des maisons de luxe.
Aller jusqu'au cosplay, hein, juste les tenues basiques, bien sûr. Il y a une inspiration.
On appelle ça des weebs, et c'est vrai que ça chatoie dans l'IRL.
Ah, les weebs, c'est un terme...
Ah non, il n'y a aucune contrepétrie.
En vrai, c'est un terme assez péjoratif qu'on utilise pour désigner les gens qui sont extrêmement passionnés. On parle d'otaku, on parle de weeb, c'est des gens qui sont passionnés de culture japonaise. En vérité, aujourd'hui, quand vous allez sur Twitter, c'est là où le terme est largement utilisé. Vous aurez forcément un moment où quelqu'un qui a une photo de profil d'un personnage de manga, vous aurez une interaction avec. Enfin, c'est quand même largement répandu. Et bien souvent, les gens qui ont une pépé foot disent ah les pépé manga, etc. Ouais, les pépé, les profile pictures,
photo de profil.
Voilà. Donc c'est des guerres de communauté, mais on se rend compte qu'au final, c'est notamment sur Twitter qu'il y a un grand vivier de gens qui sont largement aussi irrigués par cette culture.
On est tous les deux passionné avec Charline de gastronomie japonaise, mais par exemple. Ça fait deux, quoi.
C'est ce que j'allais dire. On a presque tous des souvenirs associés au visionnage de ces œuvres, et je dois confesser, en ce qui me concerne, beaucoup sont liés à la bouffe. Je crois d'ailleurs que ce sont mes premiers souvenirs de repas en animé. Les bols ingurgités par Goku, les okonomiyaki de Monsieur Duronchon dans Embrasse-moi Lucille, volé par le chat. Est-ce que c'est moi qui ai transposé une obsession perso, ou c'est effectivement très présent dans les animés les mangas.
Oui, peut-être les deux, mais c'est vrai que qui suis-je pour jeter la pierre? C'est la première chose que je remarque. Donc, c'est très présent, c'est très culturel, très ancré. Vous avez même des titres qui vont servir un scénario à peu près tenant la route, mais qui vont surtout être un prétexte pour montrer de la bouffe. Je pensais à La Voix du Tablier, par exemple. C'est un ancien yakuza reconverti en homme de maison qui fait des repas tous les jours pour sa copine, et ça le rend très heureux. Et surtout, voilà, des gros plans sur tout ce qu'il confectionne, et c'est assez incroyable. Ça fait partie vraiment de tout ce lore de Japanimation, et c'est vrai que c'est très visuel, quoi.
Et moi, je me souviens d'un manga sur les aventures d'un gastronome japonais.
Le gourmet solitaire.
Oui, le gourmet solitaire. Ouais. C'est absolument magnifique.
De Jiro Taniguchi, effectivement.
Est-ce qu'on pourrait dire que c'est là la différence entre ce qui se fait là-bas et ce qui se fait en Occident? C'est cette considération pour le plus petit menu détail de la vie quotidienne.
Jiro Taniguchi, c'est un exemple un peu à part parce que très très influencé par la BD franco-belge, le format, le dessin, tout est assez différent et décalé par rapport au manga. Mais je vais prendre par exemple Food Wars, qui est donc un shonen où des jeunes se lancent des challenges extrêmement excitants, comme des combats de boxe, hein, alors qu'ils font de la bouffe en fait. C'est dans un lycée où ils apprennent la cuisine. Bizarrement, même si ce sont deux titres qui sont très très différents dans le traitement justement que va être apporté notamment au fait de cuisiner, on reste quand même sur quelque chose qui frappe. Ouais. La façon dont la nourriture est traitée, elle est respectée. Il n'y a pas de déchets, on jette pas la nourriture, on joue pas avec. Et effectivement, on va jusque dans le moindre détail de l'assaisonnement, de la sauce, de comment ça va être mangé. Ça fait partie effectivement de cette culture.
Et dans les gros cartons d'édition, si je dis pas de bêtises, il y a aussi eu Les Gouttes de Dieu.
Bien sûr, bien sûr.
Un manga sur le vin.
Totalement.
Pour le coup.
Alors, on trouve des mangas.
Laissez passer celui-là. Hein.
Alors moi, si on parle de bouffe et de vin, je suis là.
C'est vrai que c'est un titre assez fabuleux. Et ce que je trouve génial dans le manga, c'est qu'on trouve des mangas sur tout. Vous en avez sur les danses de salon. Vous en avez sur un sport indien où vous avez tant de joueurs d'un côté et tant de joueurs de l'autre qui doivent se toucher en disant le nom de leur discipline. Vous avez vraiment de tout. Et vous avez notamment cet excellent manga qui est un seinen, si je me trompe pas, et qui est consacré au métier d'œnologue. Vous avez absolument de tout pour faire un monde, mais surtout celui de la bouffe.
Et alors, on le disait, la France est le deuxième consommateur de manga. Finalement, est-ce que notre sens du divertissement est si différent de celui des Japonais ?
C'est assez étonnant, parce que ça fait des années, c'est vrai qu'on répète ça. À un moment, je crois que les États-Unis sont repassés devant nous. On a repris notre deuxième place. C'est à la fois étonnant et en même temps pas tant que ça. Les pays latins sont très, 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 très fans de culture manga et animé. Alors allez savoir pourquoi, que ce soit au Brésil, même en Colombie, en Espagne, en Italie, c'est fou l'engouement qu'il y a. Vous avez même des mangaka italiens exceptionnels. Je saurais pas dire pourquoi il y a cette passion-là. Est-ce que c'est parce que on a eu très tôt, grâce au Club Dorothée et autres programmes, ce genre d'influence-là, ou est-ce que c'est parce que c'est tellement éloigné de ce qu'on a nous, notre caractère. En plus, moi, je suis de Montpellier, alors tout ce qui est méditerranéen, on parle fort, etc. J'aurais plus tendance à m'identifier aux webtoons coréens, qui sont un peu plus près de cette culture méditerranéenne dans laquelle j'ai baigné. Mais de voir quelque chose à ce point différent, peut-être que c'est ça qui nous plaît autant. Et peut-être aussi parce que des institutions ou des personnes politiques se sont insurgées contre ce média-là. Et bien, en guise de rébellion, on s'est mis à lire et à regarder encore plus fort.
Vous l'aurez tous compris, il faut une guide, une experte dans le monde chamarré. Comment vous avez dit tout à l'heure ?
Moi, j'ai dit chatoyant.
Chatoyant, du manga et de l'animé. Et cette spécialiste, vous l'écoutiez en ce moment, c'est Marie Palot et son podcast Yamanote, consacré à la culture du dessin animé japonais. C'est à retrouver sur toutes les plateformes France Inter et Radio France. Pour l'instant, petit pop break dans ce pop-pop-pop, c'est l'heure des pop news.
Ashley Hamilton et Claire Parker sont deux comédiennes new-yorkaises et elles aiment lire, mais pas n'importe quoi et pas n'importe quand. Leur podcast s'appelle Celebrity Memoir Book Club, puisqu'elles lisent et racontent les autobiographies de célébrités pour que vous n'ayez pas à le faire. C'est leur promesse. Ainsi ont-elles déjà analysé les mémoires de Melanie Brown, oui, Scary Spice, Ellen DeGeneres, Will Smith ou encore...
This week, we decided to dive into the rock and roll stylings of one Tommy Lee, not Jones... That's a different guy. Tommy Lee of Motley Crue.
Of Pam Anderson fame, really.
Of Heather Locklear fame as well.
Les mémoires de Tommy Lee, pas Jones, celui de Motley Crue. Si vous voulez tout savoir sans avoir à lire les pensées de l'ex de Pamela Anderson et Heather Locklear, c'est dans Celebrity Memoir Book Club. Et encore un nouveau podcast monomaniaque dédié à une série, en l'occurrence de New Girl, sitcom décrypté par ses interprètes elles-mêmes qui se sont mis à re-regarder les épisodes pour pouvoir les commenter. À la manœuvre, Zoé Deschanel, Anna Seymon et Lamande Maurice.
On the count of three, all do the intro together. One, two, three. Hi everybody.
Hello.
Hi.
Welcome.
It's us, the bestest... Welcome. Friends.
No, you should do it. So I think the inaugural episode should be done by you.
Okay. Hi, everybody. Welcome to the show that we haven't titled yet.
Et finalement, le podcast a un titre, Welcome to our show. Oui, c'est assez simple à retrouver chaque semaine.
France Inter. Pop.
Yeah, definitely. You're a German American accent. Yeah,
Zoé Deschanel.
Exactement. Ouais. Merci. Merci, Charline, et bravo. Marie Palot, dans la suite de ce Pop-Up Podcast, nous parlerons de cinéma indépendant bulgare. Non, je déconne. Nous parlerons de podcast, évidemment. Et vous rencontrerez le concurrent direct du mythique héros d'animé Astro Boy, notre Cosmo Flash à nous. Il n'a qu'à bien se tenir, votre petit Astro Boy. Mais avant tout ça, nous écoutons ensemble un morceau d'un autre super-héros, c'est James Brown. C'était The Boss, un morceau du Boss, de la Soul.
Springsteen ?
Mais non, celui de la Soul, James Brown.
Il y en a combien de patrons ?
Il y en a que deux, là. Okay. Vous écoutez Pop-Up Podcast, la seule émission de radio sur les podcasts que vous pouvez écouter à la radio et en podcast. Et... Mais voilà, je vais deux super-héros qui se battent dans le ciel de Paris. Et c'est Cosmo Flash qui met la pâtée à Astro Boy. Et le voilà qui nous rejoint et qui fait encore s'envoler mes feuilles. Le voilà, il vient de se poser délicatement dans notre studio. Il remet sa mèche impeccable en place et il s'assoit comme si de rien n'était. Bonjour.
Bonjour Antoine, bonjour tout le monde.
Bonjour
Cosmo, même pas essoufflé.
Oui, un peu là, Astro Boy. Alors cette semaine, je vous parle d'un podcast sur la science qui s'appelle Science Versus.
Mmh, comment dit-on ça en Suisse romande ?
Alors les Suisses diraient la science contre... Non, je sais pas faire l'accent suisse.
Non, on va éviter tout ce qui est accent hein, globalement, je crois, c'est mieux. Hein.
Alors donc la science contre en français, c'est une série de podcasts publiée par Gimlet Media, qui est un des studios de production de podcasts de Spotify. Retenez cette information, c'est très important pour la suite. Alors le principe de Science Versus, c'est de donner un espace d'expression à des chercheuses et chercheurs pour confronter la science avec des questions que tout le monde se pose. Par exemple, dans un épisode intitulé « Requin » en majuscule avec trois points d'exclamation.
C'est pour ça que vous y aurez.
Voilà, c'est
d'accord.
Ça. Wendy, l'animatrice du groupe, se demande si les requins sont bien les super prédateurs que nous pensons ou bien si on nous aurait menti. À cet effet, elle invite trois chercheurs pour répondre à la question.
News of the man-eating great white shakes nerves across Australia.
The shark is a precision instrument of killing. Killing.
And look, we love these stories. They're exciting and terrifying, and we eat them up. But today, we're going to go beyond the scary stories, diving a little deeper to see what the latest science can tell us about sharks
and why they sometimes bite people.
Qu'est-ce qu'elle dit ?
Voilà. Donc là, c'est un bon exemple de la façon dont le podcast pose ses enjeux, avec un accent australien très prononcé, vous l'aurez remarqué. L'épisode commençait avec le témoignage d'un surfeur qui s'est retrouvé face à un requin. Et maintenant, l'animatrice passe, elle donne la parole aux scientifiques pour comprendre pourquoi ils s'attaquent à l'homme et s'ils sont vraiment des animaux très dangereux.
Mais j'ai envie de savoir maintenant.
Je vais vous laisser écouter l'épisode, hein, je suis désolé. Mais en attendant, je vais vous parler d'un autre épisode avec un autre domaine de la science, l'astronomie. Cette fois-ci, l'équipe du podcast se demande à l'occasion du lancement d'une mission de la NASA si les astéroïdes sont vraiment une menace pour la Terre.
It was expected to be one of the closest encounters ever recorded between us and an asteroid of its size. Scientists had press releases ready and interviews scheduled. It was all rather exciting. So, with a big day ahead, Alan hit the hay.
You know, brushed my teeth, had a wash, and then just fell asleep.
In Vienna, Alan slept peacefully. But 2,000 miles away, in the city of Chelyabinsk in Russia...
Et qu'est-ce qu'ils disent ?
Alors ici, Wendy nous raconte l'histoire de l'astéroïde de 17 mètres qui s'est écrasé non loin de la ville de Chelyabinsk en Russie en 2013. Et là, on apprend que le scientifique qui l'avait détecté, qui était à Vienne, pensait qu'il passerait juste à côté de la Terre.
Ben là, c'est raté pour le coup.
Ah ouais, là, c'est vraiment raté. Et le podcast, en plus de ses questionnements, ces deux dernières années, s'est bien sûr attaqué à la pandémie de coronavirus avec sa rigueur scientifique habituelle. Et donc, lorsque Spotify, qui possède ce podcast, donc, s'est rangé du côté de Joe Rogan dans le conflit qui les a opposés à Neil Young, dont je vous ai parlé plus tôt ce mois-ci, la productrice Wendy Zukerman et sa rédactrice en chef, Blythe Terrell, ont indiqué qu'elles ne produiraient plus de nouveaux épisodes de leur émission, à l'exception d'épisodes spéciaux destinés à neutraliser les fausses informations diffusées sur la plateforme, et ce, jusqu'à ce qu'elles mettent en place des outils pour empêcher leur propagation. Le 5 février dernier, Science Versus publie le premier épisode de cette série en s'attaquant à toutes les erreurs contenues dans l'interview de Robert Malone par Joe Rogan, l'épisode du podcast à l'origine de toute l'affaire.
This show is owned by Spotify. And for the past few months, I've been encouraging you all to join up to Spotify. So, I'm feeling like a bit of a chump here. Which brings us to today. We are going to dig into what Malone and Rogan actually talked about on Rogan's show. And we're going to take a close look at the science and also the bigger picture here. Because we are going to walk you through the ways that misleading claims can confuse us into believing stuff that doesn't line up with the best science we've got.
Alors bien évidemment, là, en fait, ce qu'ils racontent, c'est qu'ils se sentent un peu bizarres et leur position est un peu étrange parce qu'ils ne veulent plus faire d'épisodes pour Spotify. Et donc, ils ont décidé de pas vraiment fact-checker toutes les affirmations trompeuses de cet épisode. Ce serait beaucoup trop long, mais plutôt, ils prennent le parti de mettre en lumière les erreurs logiques et surtout les tactiques de désinformation à l'œuvre dans cette conversation. L'initiative est louable, hein, ça renforce la réputation de ce podcast comme une super ressource scientifique. Malgré tout, c'est un peu préoccupant de se dire que ce sont les podcasteurs de Spotify eux-mêmes qui doivent faire la police au contenu trompeur présent dans le catalogue de l'application. Alors, du coup, je pose la question, Spotify est-elle une plateforme neutre ou bien un éditeur de son catalogue ? C'est la question vraiment qui est au centre de ce débat. Pour le moment, Spotify penche plutôt carrément pour la première option, mais tous les podcasteurs salariés par le service de streaming pointent de l'autre côté.
Merci Thomas Viassi. Oh mon Dieu, mais je viens de révéler le vrai nom de Cosmo Flash. Non Cosmo, non, ne partez pas. Oh mais ça y est, trop tard. Il est très très vexé, j'ai l'impression. Bon, à la semaine prochaine, Thomas, enfin Cosmo je veux dire. Voilà, il est parti. Marie Palot, dans quelques instants, on vous demandera à votre tour de nous conseiller un podcast, mais avant cela, écoutons ensemble, si vous le voulez bien, l'homme le plus yéha de tous les temps, c'est Johnny Cash, Redemption Day.
I've wept for those who suffer long, but how I weep for those who've gone. In rooms of grief and questioned wrong, but keep on killing. It's in the soul to feel such things, but weak to watch without speaking. Oh, what mercy sadness brings, if God be willing. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. Fire rages in the streets and swallows everything it meets. It's just an image often seen on television. Come leaders, come ye men of great, let us hear you pontificate. Your many virtues laid to waste, and we aren't listening. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day. What do you have for us today? Throw us a bone, but save the plate. Oh, why we waited till so late? Was there no oil to excavate? No riches in trade for the fate of every person who died in hate? Throw us a bone, ye men of great. There is a train that's heading straight to heaven's gate, to heaven's gate. And on the way, child and man and woman wait, watch and wait for redemption day.
Nous écoutions Johnny Cash avec son morceau Redemption Day en compagnie de Marie Palot, notre invitée du jour, qui venait nous parler, elle, de son podcast Yaman Noté, mais qui va maintenant nous parler du podcast de quelqu'un d'autre. Car Marie, nous avons un clin d'œil dans cette émission que nous appelons, tenez-vous bien, le podcast.
J'adore.
Oui, car nous demandons à nos invités de nous conseiller le podcast d'un pote, d'où le jeu de mots. D'accord. Ou pas d'ailleurs. Pour un plaisir à la Pierre Bellemare, dites-vous, vous nous conseillez le podcast Mort insolite. Peut-on mourir empalé par une paille, tué par une limace, écrasé par une vache tombée du ciel, empoisonné par une carotte ou s'étouffer de rire? Apparemment, oh oui.
Fellation fatale. Depuis 1848, les présidents de la République se succèdent à l'Élysée. L'histoire se souvient d'eux pour des raisons diverses. Félix Faure marqua les mémoires par sa mort tout à fait originale et inattendue. Ça lasse aussi. Car enfin, qu'un homme meure par fellation est tout à fait improbable. Alors un président de la République, c'est absurde. Décalé.
Alors en ce qui me concerne, j'ai cessé ce genre de pratique, mais pourquoi ce podcast, Marie Palot?
Mais personne ne vous a posé la question.
Je réponds avant qu'on me la pose. Voilà.
Non, mais alors c'est peut-être pas le meilleur exemple, mais c'est une des nombreuses histoires qui sont contées dans le podcast Mort insolite, une des plus fleuries, une des plus drôles, et j'adore le ton assez monocorde qui est employé pour raconter ces morts farfelues. Je suis très cliente de tout ce qui est un peu insolite, mais tout ce qui est un peu aussi mystérieux. Je le dois à mes tantes qui étaient fans de Pierre Bellemare, et les longs week-ends en famille nous gratifiaient de longs extraits télé à l'époque, et je pense que ça a déteint sur moi, ça a même fait naître une vocation, si j'avais été plus studieuse à l'époque, de procureur de la République, où je me voyais m'emparer d'affaires absolument insolites. Alors peut-être pas ce genre d'affaires-là, mais bon, j'ai vu après les études, j'ai dit non, je vais être je vais être animatrice.
Et vous vous êtes vengée sur Phoenix Wright après
c'est
un
exactement
vidéo.
Ça. Voilà. C'est exactement ça.
Vous êtes en train de me dire que Pierre Bellemare n'était pas un animateur, c'est ça?
Alors c'était un animateur, mais du coup, fallait choisir. Hein.
Ouais, fallait choisir.
Étudier ou raconter des histoires, je préfère raconter des histoires.
Mort insolite, voilà le podcast que vous nous recommandez, Marie Palot. Je rappelle que votre podcast à vous, Yamanote, c'est à écouter sur toutes les plateformes France Inter et Radio France, et que c'est évidemment chaudement recommandé par Popo Podcast. Merci de nous avoir rendu visite.
Merci beaucoup pour l'invitation.
C'est un plaisir. Merci Charline.
Mais merci à vous à lundi.
À demain, je dis pas au revoir à Thomas puisqu'il nous a déjà quitté avec Cosmo. Hein. Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Benjamin Troncin qui était à la technique aujourd'hui. Lundi dans Pop Pop Pop, Alice Taglioni sera dans Pop 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 pour une nouvelle saison d'OVNI. Mais avant lundi, rendez-vous partout sur les internets 3615 Pop Pop Pop.